Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Il a pas osé.
Vous savez pourquoi j'ai pas osé?
Donc vous étiez
à travers cette stratégie, Tom et moi avions décidé de remettre un peu de punch dans cette émission dont il est vrai, on disait qu'elle ronronnait, pour ne pas dire plus. Dans les milieux autorisés, on s'autorisait à penser que les grignoux ronronnaient. Eh oui, mon bon Jean-Loup.
Ils voient pas l'envers du décor.
Il était temps que l'on nous déstructurions tout ça, mon bon Jean-Loup. Et effectivement, on vous a redonné le punch pour dire...
Jean-Loup Grossou. Et j'ai vu que c'est une histoire de souffle. Moi, j'avais préparé mon souffle. Et vous l'avez pris, et dans le dixième de seconde, voilà. Bah, Jean-Loup Grossou et...
Roger Fringant.
Voilà. Sans oublier,
et truc qu'on ne voit plus, mais qu'on salue quand même, je tiens à le signaler, et lui
au passage,
et toute sa famille quand même.
Voilà, vous écoutez,
il n'est pas mort quand même.
Les Grignoux, toutes les semaines, normalement, à part la semaine dernière, ou pour des histoires religieuses, j'allais dire, bah ouais, on avait un recueillement à faire, on n'a pas pu faire l'émission le mercredi soir, le mercredi, le dimanche...
Pas de recueillement, Jean-Loup, moi je revendique le fait que notre république laïque, libre... Eh bien, et comme on dirait, j'ai décidé de garder certains rites, comme c'est ce que je disais d'ailleurs à ma patronne, pas plus tard qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une conjonction de fêtes catholiques dans un état laïque m'ont permis d'éviter des tâches qui m'auraient bien fait chier, ça l'a fait rire, parce qu'au moins j'ai été franc sur le sujet. Bah, bref,
imaginez,
on n'a pas fait l'émission parce que c'était le week-end de l'Ascension.
Imaginez Mélenchon qui serait passé, alors là, lundi de Pâques, allez,
surtout
terminé.
Que pour l'Ascension, alors je sais pas si les British fêtent l'Ascension comme chez nous. Alors, vous, je sais, quand vous regardez la télé-réalité, c'est plus quand même trois barbus perdus dans l'Alaska
des hommes.
Je vais te rembobiner là, le tuyau dans la cafetière, bref, des trucs d'hommes. Moi j'aime bien les trucs d'hommes aussi, mais ça peut être des filles, parce que tout le monde est souvent à quatre pattes dans les trucs que je regarde, c'est de l'archéologie, vous savez. Et donc du coup on peut avoir le droit au souvenir du plombier, ça peut être plus ou moins agréable, et en plus on trouve des trucs, et notamment c'est marrant que vous parliez de l'Ascension, parce que l'Ascension c'est quoi? C'est le moment où le Christ décolle.
Oui, tout. Et là, normal, il part au bas.
Alors, avant de décoller, je rappelle les épisodes précédents. Le Christ est décédé sur la croix. Après, le lendemain de sa mort, on va à la tombe des fidèles, des femmes vont à la tombe, pouf, la tombe est ouverte, le corps a disparu, et un inconnu, etc., apparaît, dit, ben, le Christ n'est pas mort, il est ressuscité, pouf, et elles se barrent, elles ont peur, et après, on parle de résurrection, et on arrive au stade final de l'Ascension, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, après avoir délivré divers commandements, Jésus pratique ce que l'on appelle l'Ascension, et là, vous disparaissez, vous revenez plus, ça met un terme à notre définition. définitivement à votre existence sur Terre. Sauf que, dans le reportage que j'ai vu, eh bien, on a trouvé des vieilles Bibles. Vous savez, des... Est-ce que vous savez ce que c'était qu'un palimpseste?
Le haut, c'est quand on lit à l'endroit à l'envers, hein, c'est ça? Alors, le...
Ça peut peut-être être ça, je ne maîtrise pas tout à fait le sujet.
Ah, mais j'étais pas loin, là. Mais c'est la même
un
racine.
Truc, par exemple, par exemple, on manque de papier. Hein, on manque de papier. Bah,
qu'est-ce qu'on prend, ouais, des...
Eh ben, on écrit par-dessus ce qui était déjà écrit. D'accord, c'est-à-dire, on met une couche de blanc et on écrit par-dessus, voilà. Or, comment des chercheurs et chercheuses ont tellement kiffé la recherche de la Bible, de The Holy Bible, vous savez, les origines et surtout du Nouveau Testament qui concerne la vie de Jésus, et des Anglais ont mis à jour pour le moment, les éditions les plus récentes de la Bible, enfin, les plus anciennes de la Bible, font tout état, certes, d'un tombeau ouvert, tout état, certes, d'un espèce d'inconnu qui dit, pouf, ça y est, le Christ est ressuscité, mais après, les femmes s'en vont parce qu'elles avaient peur, et ça se termina. Point. Ça veut dire pas de diverses apparitions à Saint Thomas et compagnie, et ça veut dire pas de fête d'ascension, ça veut dire également pas de 3 jours de congé.
Je crois qu'on vient de battre un record.
Le
lancement d'émission le plus long qu'on ait jamais fait.
Ah, et tout ça, en un seul souffle. Comme quoi, il s'économise, en fait, et il y va tranquillement. Et c'est vrai que la résurrection, c'est même un petit peu, comment direz-vous, souvent, c'est les chrétiens.
Merci quand même nos amis catholiques malgré les massacres qu'ils ont commis pour nous offrir 3 jours de congé.
On pourrait parler aussi de la fameuse Bible de Judas là qui est complètement
Je maîtrise pas.
Ah ça alors en deux mots, vous saurez après le 10 pourquoi on parle autant de religion ce soir parce que autant le christianisme on connaît un peu mais on connaît pas tout. Bref, on a retrouvé des textes justement et c'était la version de les évangiles de Judas pour résumer et là c'est une version complètement différente où Judas qui était le préféré de Jésus tout le monde le sait, hein. Eh ben, Jésus lui dit, putain, ma secte, elle décolle pas, là. Ah, putain, si j'étais un peu martyr, peut-être que ça donnerait un sens à tout ça.
Ah ouais, carrément.
Donc, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander de me trahir. Tu vas passer pour un enculé pendant, pour l'éternité. Mais grâce à toi, ma secte, elle va pouvoir se développer. Et bingo, ça marche. Et Judas, peut-être, ce serait pas l'enculé,
Excuse-moi. Ils étaient assez intelligents à cette époque-là pour penser à des trucs comme ça.
J'essaye d'imaginer, enfin, je parle un langage un petit peu imagé, mais, pour résumer, c'est un peu ça le propos. Évidemment, ça remet en cause complètement tout le dogme de l'Église. C'est comme, est-ce que Jésus était marié? Eh ben non. Même s'il était réellement marié, il est fort probable. C'est quand même un personnage historique, faut pas l'oublier. Il est fort probable qu'il ait été marié, qu'il ait une descendance. Mais ça remet en cause tout le dogme de l'Église, la Vierge Marie. C'est passionnant la religion. C'est bien d'étater parce que du coup, on peut s'intéresser à toutes les religions.
Ce qui est surtout intéressant, c'est on en reparlera sans doute peut-être avec nos invités parce que c'est une émission bourrée. On a passé un petit peu de temps, on peut le dire. C'est
mais bourrée de spirit. Spiritualité.
Nous recevons deux représentants, l'ancienne présidente et l'actuelle présidente. Alors j'espère que je vais pas dire de bêtises du Centre culturel bouddhique de Rennes. Et en tout cas Madame Simard et une collègue, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, une collègue, qui vont venir nous parler justement du bouddhisme. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc avec Jean-Loup sur lequel on ne s'était jamais penché auparavant. Et on aime bien, nous, chez les Grignoux, justement, pas innover, on va dire, mais en tout cas, c'est ça, un petit peu le côté, on va dire, pas culturel, on va dire, encyclopédique. Voilà, c'est ça. Nous sommes des encyclopédiciens.
Oui, mais une encyclopédie incomplète. Et on saura peut-être un peu plus sur le mouvement. Et voilà. Tom a disparu, il faut qu'on meuble.
Besoin de dire aux auditeurs que Tom a disparu.
Mais si, il faut qu'il ne le
voit
sache.
Il ne le voit pas, parce que Tom, malheureusement, avant, ils étaient deux. Vous voyez bien que les Grignoux, on ne peut pas être deux. Là, à mon avis, le téléphone sonne.
Oui, il cherche
Tom
le bouton.
Qui cherche le bouton. Il vient de découvrir comment ça marchait. Mais il va se dépêcher de nous mettre à l'église. Et c'est bien nos invités qui sonnent. C'est nos invités qui sonnent.
Oui.
Ouh, c'est chaud en plus.
Nos invités qui sonnent. Et c'est un morceau de Tom.
C'est un morceau de Tom qui est parti. Donc.
The tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge sister by looking at a brother. You can't judge book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge book by looking at the cover. Judge fish by looking.
Comment ça, Yop, vous mettez pas de rubrique, rien.
Mais vous faites pas le comptage sur l'émission.
Ben on vient de le faire. Il y a que vous qui écoutez pas.
Eh ben, ça, rubrique.
C'est les cordonniers les plus mal chers. Je sais, il écoute pas.
Non, mais c'est pas comme si ça faisait 17 ans qu'il était avec
non,
nous.
Non, il est là. Voilà. On s'en fout. Il est là.
Est-ce que vous vous rappelez au moins du nom de l'émission?
Je vous le mets votre générique.
C'est sûr que c'est le nôtre.
C'est moi qui suis déstructuré là.
C'est maintenant devenu une habitude. Les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça, Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, c'est ça, vous voulez.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
l'interphone. Et là, vous savez qu'il faut dire, c'est incroyable. Et là, on peut le dire. On peut le dire. Il se passe quelque chose de totalement incroyable. Déjà, il nous passe pas le générique. Après, voilà, il dit n'importe quoi. Il a perdu nos invités dans les locaux de la maison des associations. C'est-à-dire qu'on dit toujours, hein, chers auditeurs, si un jour vous êtes invité chez les Grignoux, le rencard, c'est dehors. Vous sonnez, vous attendez dehors.
Même s'il pleut,
il faut sonner au bon interphone.
Il faut sonner au bon interphone. Et si par malheur quelqu'un vous ouvre la porte, vous ne rentrez pas. Sinon, vous êtes perdu et on ira vous ouvrir. Enfin, quelqu'un vous ouvrira sans doute le matin en vous engueulant copieusement, en vous demandant d'où vous venez. Et c'est pas de notre faute. On n'arrête pas de le dire. Il faut pas rentrer sans sonner et avoir.
Et même Tom a oublié de dire c'était la rubrique à Roger. Toi, c'est pour vous dire complètement ZBDN. Vous êtes ce soir. Bah, il faut
Déstructurons.
Déstructurons.
Il y a des gens qui déstructurent. Il y a des gens, par contre, quand ils sont dans la haine tenace, eh bien, j'aime autant vous dire qu'ils sont dans la haine tenace. Par exemple, Marisol Touraine, pour lequel il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que, comme par hasard, elle a gommé le logo socialiste de son affiche pour les législatives. Donc, elle a quand même gommé pas mal. Elle est restée 5 ans au ministère de la Santé. Donc, du coup, vous imaginez bien que les ors de la République la font encore kiffer. Donc, du coup, elle se représente aux législatives. Elle a gommé le logo PS. Comme elle n'a jamais dit de mal de Macron, bah pouf pouf, il n'y aura pas de candidat en marche face à elle, donc ça fera la majorité Macron. Je sais pas où est trop est-ce qu'elle va siéger. Et en plus, cette saleté a réussi à faire passer au journal officiel, pas plus tard que la semaine dernière, un décret signifiant l'interdiction de vapoter dans certains lieux, à compter du 1er octobre prochain. L'utilisation des cigarettes électroniques sera ainsi proscrite à l'intérieur des établissements scolaires, dans les transports publics ou encore sur les lieux de travail couverts et fermés à usage collectif du type open space. Une civilisation apparente, blablabla. L'amende, 150 boules. Putain, Marisol, ça, c'est de l'obstination dans la méchanceté. Putain, c'est de la vapeur d'eau. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez curieux. Étant un petit fumeur, ça va, je peux encore sortir toutes les heures ou les 2 heures pour aller fumer ma clope si je suis stressé. Et je comprends que des gens puissent avoir envie de vapoter. Mais la vapoteuse, c'est de la vapeur d'eau. Et on interdisait aux gens de fumer, effectivement, au nom de la salubrité, parce que vous polluez la gueule des gens. Ok, je veux bien fumer dehors. Eh ben non, même si tu vapotes, ça sera dehors avec les autres. Marisol, je te hais. Il y a le droit de dire ça.
Aujourd'hui, oui, elle est plus rien.
Même si elle est quelque chose. Je vous dis, moi, Marisol, elle nous aura fait chier. Je vous rappelle quand même que, vous savez comment les paquets de clopes uniques, tout noirs, qui font chier tout le monde.
Ça ne servait à rien.
Et ça ne sert à rien, Marisol Touraine. Et Marisol Touraine oublie un truc. Alors, c'est marrant, parce que j'ai trouvé un article aujourd'hui selon lequel, eh bien, la clope en fume le plus. Vous savez, quelle classe sociale fume le plus?
Les pauvres.
Eh ben, voilà. Alors c'est assez marrant de voir que la politique de répression qui s'abat sur les fumeurs s'est traduite par une hausse régulière des paquets. Elle ne cible finalement qu'une population pauvre qui, envers et contre tout, fumera de toutes les manières possibles.
Voilà, et si cette population ne paye pas d'impôts, elle en paye de manière indirecte par les clopes. Et qui c'est qui joue le plus, à votre avis, en France?
Il est cynique.
Non, mais comme ça, il y a un rééquilibrage.
Oui, alors ça serait l'argument pour Marisol, effectivement.
Et qui c'est qui joue le plus, à votre avis, en France? Les riches ou les pauvres?
Les pauvres, qui joue, on peut avoir on peut comprendre.
On peut avoir de la chance peut-être.
Parce que là, quand on clope, c'est quand même l'auto-cancer du poumon, c'est quand même pas tip-top. Allez, tout vient à point, à qui sait attendre, Édouard Balladur a été mis en examen. Sonnez, trompette de la justice.
Non, mais alors, les plus jeunes vont vous demander, mais c'est qui Édouard Balladur? Remettez un peu en contexte.
Asseyez-vous en rond, je vais vous raconter des choses. En 1995 a eu lieu des élections présidentielles. À l'issue du premier tour, au premier tour, on avait Jospin qui était face à une droite séparée. On avait Chirac et Balladur. Balladur qui était le premier ministre de Mitterrand. Alors, en fin de règne, il avait perdu aux législatives de 93. Bref, Balladur trahit Chirac et se présente aux présidentielles. Chirac, ni une ni deux, se présente quand même, duel à droite. Résultat des courses, à la fin du premier tour, il n'y avait plus que Jospin qui est arrivé en tête et Chirac deuxième, ce qui n'empêchera pas Chirac de gagner après dans la ligne droite de Hunaudière. Sauf que Édouard Balladur dur, il fallait quand même qu'il finance sa campagne. Parce que Chirac, en bon renard avisé, avait quand même plus les clés de la maison RPR. Donc au niveau du financement, les affiches, etc., etc. Balladur, c'était un peu le Macron de l'époque, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était un peu le traître, le traitor.
Et je crois qu'il y a un Nicolas Sarkozy aussi qui avait choisi le mauvais camp.
Nicolas Sarkozy.
Qui est parti au purgatoire pendant 10 ans.
Il a pris dans la gueule. Et comme en 5 ans, parce qu'après Chirac l'a repris après au ministère de l'Intérieur pour son plus grand malheur. Bref, Édouard Balladur est enfin mis en examen parce que en tant que traitor, il n'avait pas forcément les sous, et on le soupçonne fortement d'avoir touché des... Alors, c'est très très compliqué.
C'est du rétro...
On appelle ça des rétro-commissions. Ouais, c'est-à-dire que déjà, on vend des armes, c'est pas joli joli, mais en plus de ça, eh ben, on est toujours pour vendre des armes, bien que normalement, c'est des armes de pays à pays, hein, c'est des traités officiels, etc.
De filer un bakchiche, voilà, pour résumer.
En clair,
ou de fluidifier les relations.
Voilà, on fluidifie les relations à balles. Le pognon fait parfois 3 fois le tour de la planète avant de retomber dans les poches de certains. C'est ce qui est reproché à Balladur. Et ce qui est encore le plus amusant, donc c'est des faits qui remontent à 25 ans. Le problème, c'est que, alors, on pourrait en rire. Sauf qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'en rient pas. Ce sont les proches des victimes d'un attentat qui a lieu à Karachi, Pakistan, pays avec lequel on avait justement vendu des frégates. C'est des frégates ou des sous-marins?
C'est sous-marins,
je ne sais plus.
C'est des frégates. Allez-y, ouais.
Et bref. Et comme, quand Chirac a gagné les élections en 95, il y avait des rétrocommissions à payer. Pour, comment dirais-je, des rétrocommissions à payer aux intermédiaires pakistanais.
Donc, c'est-à-dire que sur le bakchiche qui a été donné, il faut rétrocéder une partie du bakchiche, c'est ça?
Voilà.
Donc, le commanditaire touche, le vendeur touche, et puis l'acheteur touche.
Tout le monde se sert. Ouais. Balladur, alors, selon ce qui lui est reproché, hein, Balladur se serait servi et on aurait utilisé ce pognon-là pour financer sa campagne. Il s'en est super bien excusé en disant que c'était en fabriquant des t-shirts. J'ai pas vu beaucoup. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de gens avec des t-shirts Balladur. Bref, du coup, quand Chirac est arrivé au pouvoir, la rétrocommission, ce qu'il aurait fallu payer, Chirac a dit, niet, Balladur a qu'à se démerder. Balladur, qui était du haut d'un parti qui voulait plus rien dire, parce qu'en fait, il voulait juste être président, .. Et il n'avait pas de parti, et du coup, personne n'a remboursé. Mais c'est... Alors, ça, c'est toujours, après ça, c'est le second volet de l'affaire. Il semblerait bien quand même que les intermédiaires n'aient pas aimé tout ça. Et du coup, pouf, il y a eu un attentat qui a visé les ouvriers et les techniciens et ingénieurs français qui travaillaient au Pakistan pour le compte de la DCNS, la société qui a vendu le matériel aux Pakistanais.
Il n'est pas condamné, un Balladur, puis une affaire qui n'a pas forcément passionné les gens.
Alors, il y a quand même eu pas mal de victimes, Jean-Jacques Mébinoc. Je vais vous dire quand même que c'est une voiture piégée, précipité contre un bus transportant des salariés de la direction des chantiers navals, explosé à Karachi, tuant 15 personnes, dont 11 employés français et en blessant 12 autres. Tous travaillaient à la construction des sous-marins. 3 sous-marins Augusta, vendus en 94 au Pakistan par la France sous le gouvernement Balladur. Et Balladur est enfin mis en examen, mais alors là, le plus drôle, c'est qu'il dit non. Il demande à ses avocats de rejeter cette mise en examen. Au nom de quoi? Pas au nom du fait qu'il aurait pas touché le pognon. Ça, on aurait pu demander ça à un mec honnête. Non. Au nom du fait que la validation de ses comptes de campagne avait été autorisée par le Conseil constitutionnel en octobre 95. De plus, les faits sont vieux de 23 ans, donc il devrait y avoir prescription.
Bon, c'est ce qui va se passer. Puis ça va pas forcément passionner les foules.
Non, ça persuade quand même, honnêtement, mon bon Jean-Loup. Il y avait 11 Français et 4 Pakistanais. Bref, voilà, et Balladur, il quid. En plus, ce qui est complètement dingo, le cynisme de ce bonhomme-là, c'est de dire, non, le souci, c'est pas tant le fait que je sois coupable ou non, c'est que de toute façon, c'est trop tard.
Vous êtes rancunier, vous l'avez...
Je suis rancunier. Ouais,
même 25 ans après, vous l'avez dans
Balladur, en prison. Alors, je dis, avant, si c'est lui, qu'il aille en prison.
On va se mettre un petit 10, parce qu'il faut que vous...
Est-ce que ça indique dans la programmation?
J'aurais juste un truc à dire avant, parce qu'il faut que vous respiriez un peu de temps en temps.
Il a pas mis sa programmation, lui?
Non, je voulais juste dire un...
déjà.
Je voulais juste dire un truc.
À vous? Ouais, et qu'est-ce que je mets?
Big Eyes.
Ouais. Je voulais juste dire un truc avant ce que je peux.
Bien sûr.
10 secondes, dans une petite pub, que j'ai vue à la télé, un peu bizarre, qu'une petite vieille, qui attend une visite, etc. Et c'est le facteur qui passe boire un café, voir si tout va bien. Service de la poste. Payant. Voilà, je sais pas, quand j'étais facteur, quand j'étais étudiant, c'était gratuit, ça faisait partie du service.
Ah, c'est payant, ça.
Maintenant, c'est devenu payant. Mais c'est officiel.
Parfois, il a fallu chez UT. pelleter des mamies un petit peu pour qu'elles crachent.
Non, mais à l'époque, où les journaux, enfin le West France n'était pas livré, c'était la Poste qui le distribuait, et une putain de main, enfin la, qui faisait perdre une demi-heure à ma tournée. Il faut pas de boîte à lettres. Je lui ai amené le journal et puis un café, forcément, pas de choix. Mais bon, bref, allez, un petit dis, c'est tout ce que je voulais dire. Désolé.
Non, mais vous avez bien raison d'intervenir. Vous êtes intervenu fort à propos. Vous avez fort raison. Et je voudrais en profiter pour dire que moi, pendant que Tom va mettre un nouveau Dix, je vais partir à la recherche de mes invités que Tom a perdu.
J'ai demandé à des gens là-bas et ils savent
pas eux.
Non, c'était pas eux.
C'est peut-être d'autres gens.
Non, c'était...
We'll be right back. greed, corruption, bigotry, war. Greed, corruption, bigotry, war. And don't forget pollution. The world is our Chernobyl. Your taxes are casino. Forget about your hope and change. From the blood of caution, we allow the peasants in pain. Should be on their clothes.
Like auto racing stars.
I hate to use that old cliche, but
we got class war in this country.
So much lipstick on their heads, they could be Al Jolson. Anything to pass the test, then retire and cash in. Join the wealthy lobbyists, corporate boards and think tanks, raking billions pouring for who you govern days before. Hail the corporate coup,
corporate coup.
More policy, yes, for you.
Yes, for you.
Hunt a dream to extinction.
Alors que, effectivement, moi j'étais pour la déstructuration, mais pas
pour
arrêter. Hein,
on va arrêter.
On va arrêter parce que. Écoutez, Jean-Loup, moi ce que j'aime bien, c'est un peu comme dans la Chine populaire, on fait des expériences.
Oui.
Bah. Et là, l'expérience c'était de déstructurer. Et là, ça Tom déstructure tellement qu'il a ouvert les locaux de la maison des associations à trois personnes qui n'ont rien à voir avec nos invités, dont un déguisé en tueur en série, avec une espèce de robe de bure et des espèces de sabres de ninja qui sortent de sa hotte.
Et la cagoule, ça vous a pas inquiété?
Je vous ai dit pourtant que c'était deux invités de sexe féminin que nous recevions, présidente et vice-présidente de l'association culturelle bouddhique de Rennes, bouddhiste ou bouddhique, et vous nous redirons,
oui,
je n'arrête pas d'hésiter sur le terme, je crois que je vais me faire taper sur
ou
les
bouddhistiques.
Et on va continuer cette maudite rubrique lors de cette émission totalement déstructurée, mais moi j'aime.
Oui, ils n'avaient pas beaucoup de papier là, sur c'est bizarre, vous avez tout oublié à la maison comme compliqué. Si, il aime bien, il fait les recherches. Hop, il tire à peu près 2 ramettes de papier, il a tout. Et le problème, c'est qu'il oublie à chaque fois.
Une fois sur deux.
Bah oui, bon.
Et après, tout est dans la tête.
Oui, vous êtes le meilleur. Bah, c'est à vous.
Ah,
là.
C'est à moi, mais
bah
je croyais
oui.
qu'il y avait la musique. Ah non,
mais
moi, je
non,
c'est
fou.
Alors, justement, c'est assez marrant.
La semaine prochaine, je remets de l'ordre dans tout ça. Il y en a marre.
Non, moi, ce qui me fait rire, c'est parfois la concordance. Dans le même journal gratuit, j'ai découpé 2 articles intéressants. Un qui dit, le béton étouffe les grandes villes. L'autre, avenue Janvier, la ville promet de conserver des arbres. En fait, vous savez.
Ah oui,
que
j'ai entendu la fameuse polémique.
Ouais. Bah, fameuse polémique, faut quand même pas déconner. Comment dirais-je, du jour au lendemain, la ville, sans concertation aucune, plus ou moins socialo-rouge et verte, quand même, je tiens à le dire, même plus que moins. Et donc, du coup, faut voir d'ailleurs qui était à la tête de ce truc-là, mais ils avaient décidé, lors de la restructuration de l'avenue Janvier, de péter tous les arbres. Alors, il va peut-être falloir aussi que les gens soient cohérents, parce que
alors,
d'un côté,
allez-y, j'ai un
les gens gueulent, faut pas couper les arbres, mais de l'autre côté, dès que les étourneaux s'y mettent en janvier, tout le monde gueule. Moi, je crois que les tourneaux, faut le supporter. C'est une bestiole assez charmante. Faut pas garer sa bagnole dessous.
Oui, garez votre vélo un jour en dessous d'un.
Moi, j'ai ma petite bâche.
Bah voilà, mais tout le monde n'a pas une petite bâche.
Eh ben, c'est dommage. Et en attendant, on va quand même pas flinguer les rares arbres. Lorsque Quelques pages plus loin, un article plus général, hors rubrique Rennes, nous signale quand même que le béton étouffe les grandes villes. Ben les grandes villes pourraient gagner 7 degrés supplémentaires, voire 8 degrés supplémentaires, si à 2100, le constat urbain est toujours le même, à savoir toujours plus de béton, toujours moins d'arbres. Et le constat est le suivant, la ville médiane au milieu d'un échantillon de 1692 cités étudiées perdrait l'équivalent de 1,4 à 1,7% de PIB par an d'ici 2050 si on continuait à bétonner. En fait, la solution est claire, au contraire. Plus on arborise, plus on crée, si vous voulez, des espèces d'écosystèmes qu'il faut qu'on diminue la température, donc on diminue les charges, il fait moins chaud pour les gens, c'est quand même plus cool pour tout le monde. Et en plus de ça, on gagne des sous, on accroît la biodiversité, quitte à avoir, de temps en temps, un peu des tourneaux à chier sur nos bagnoles pourries qui, de toute façon, sont appelés à être bannis du centre-ville, parce que le paradoxe, c'est là que vous auriez dû respirer, vous n'avez pas respiré. Il ne respire pas. Bonsoir. Il ne respire pas, mon ami. Donc, comment voulez-vous qu'il prenne la parole s'il ne respire pas? Respirez à fond.
Pour rester en apnée comme ça pendant au moins 10 minutes.
Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est assez rigolo. On va couper les arbres au nom de la destruction, au nom de, on va éradiquer de la même manière les étourneaux. Moment où, justement, dans l'avenue Janvier, vous couinez pour votre voiture. Non. Dans l'avenue Janvier, la voiture sera prohibé.
Non mais je suis sûr, il y a deux choses. Alors, si on faisait un petit sondage, je suis sûr que tous les habitants de l'avenue Janvier préféraient que les arbres soient coupés. On parle des étourneaux, mais vous avez vu, l'avenue Janvier, c'est plein sud. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de soleil. C'est pas possible.
Non mais vous dites ça, allez-y.
Non, il faudrait. Vous savez, comme dans les émissions politiques, on est chacun un timer, paf.
Ça pourrait avoir moins.
Il a déjà de fait. Et par contre, les gens qui n'habitent pas l'avenue Janvier sont pour le maintien des arbres, parce que de toute façon ils y passent une fois de temps en temps. Deuxième chose, votre représentation aussi de la ville qui se bétonise, c'est une ville, c'est normal. Si je suis vos raisonnements, il faut qu'on continue à périurbaniser à donf. Attention. Parce que la gare, tout le monde a son petit jardin, il y a de
je
la
note
verdure,
ce que vous dites, périurbanisation
à donf, et comme ça la ville serait moins minéralisée. Et vous savez, dans toutes ces banlieues dortoirs, on trouve un petit bout de jardin, un petit bout d'arbres, les petits bosquets à droite à gauche, et ça permettrait de résoudre le problème. Et peut-être que les loyers seraient moins chers au centre-ville, et je pourrais peut-être me rapprocher.
Je peux vous répondre. Vous parlez de périurbanisation, vous avez raison, c'est vrai que quand on stocke les gens à la verticale, si on les laisse s'étendre à l'horizontale, ça risque de grignoter, en plus, notamment, poser des problèmes en termes de terres agricoles, etc. Vous avez entièrement raison. Mais dans le cas de l'avenue Janvier, il faudrait que ça se traduise par la construction d'immeubles plus grands. Or là, il n'en est pas question. Il est juste question de couper ces putains d'arbres pour protéger les voitures qui, de fait, de toute façon, n'auront plus le droit d'être dans l'avenue Janvier.
Mais vous avez vu que
attendez, parce que je pourrais lui rétorquer.
Oui, mais vous rétorquer quelque chose.
Si on demandait aux gens, moi j'ai des chiffres, monsieur. Moi j'ai des chiffres et je lis. Attendez. C'est une pétition déjà signée hier. Une pétition qui a débuté il y a 3 jours, dénonçant l'abattage des arbres sur l'avenue Janvier, est déjà signée par plus de 7500 personnes.
Et je l'ai signée alors que j'y passe jamais avenue Janvier. Mais rien pour faire chier les gens. Qui y habitent. La pétition, certainement.
C'est quoi la pétition?
Là, je sais plus. C'est comme vous avec le numéro de téléphone.
Joseph Staline, t'as jamais signé la pétition?
Deuxième chose. Vous qui n'avez pas vous n'avez pas une vue d'ensemble de la ville, vous n'êtes pas un urbain, vous avez la perspective qu'on a vue Janvier. Vous avez vu plein sud, le rayon de soleil, qui s'écaserait sur le palais Saint-Georges. Ce serait d'une beauté magnifique les soirs.
Du béton.
Oui, mais là, qui c'est qui gâche le beau béton? C'est ces putains d'arbres à la con, là.
Ça va sûrement faire plaisir à nos invités, j'en sais rien.
Mais je vais signer la pétition. J'y vais jamais à vue Janvier. Je veux qu'on les garde pour faire chier les gens qui y habitent.
Vous avez vu qu'il a répondu, l'élu, quand même, par rapport à ça. L'élu, en charge, justement, de l'écologie urbaine.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle Daniel Guillotin.
Bien.
Et il a dit, il faut voir.
Les yeux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Daniel Guillotin?
Et donc, il s'agit d'un pré-projet qui n'est pas encore rentré dans sa phase de concertation. Voilà. Rien n'est encore fixé définitivement. La semaine prochaine, nous rencontrerons les commerçants avec l'élu de quartier. Suivra une concertation avec les riverains.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas procéder un petit peu à l'envers? C'est-à-dire que, avant de dire, on va péter les arbres et on va mettre façon Rennes. Alors, ils avaient prévu au début des trucs, vous savez, Tom, c'est super, une espèce de petite pagnotin. On fait pousser 2-3 trucs où est-ce qu'ils permettent aux dealers de planquer leur dos en place de la République. C'est ça qu'ils voulaient mettre à la place des arbres. Et c'était ça. Et c'était, attention, parce que c'est dommage, je l'ai oublié encore une fois sur mon bureau, mais un autre article où on disait justement c'était le projet de la ville. Et là, on parlait pas de concertation, on parlait pas de ceci, on parlait pas de cela. Et je trouve dommage, moi, quand même, qu'on ne commence pas davantage par la concertation avant de dire qu'on va péter tous les arbres.
Bon, ça va un peu le principe. Vous savez, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, là, le fameux référendum qu'il y a eu, bah, les gens qui habitaient à proximité, bah, ils ont voté non, puis les gens qui n'y allaient jamais ou qui n'iront jamais ou qui habitaient très loin, ils ont dit oui. Voilà, c'est un peu le même.
Ouais, mais là, ça paraît pas logique. C'est-à-dire que les gens les plus proches de l'aéroport ont été les plus en faveur du maintien de l'ancien aéroport.
Les étourneaux, ces vecteurs de maladie, les fiants d'étourneaux, vous vous rendez pas compte.
Mon Dieu, mon Dieu.
S'il y a le choléra ou s'il y a la peste qui revient à Rennes, on saura que ce sera votre faute en partie.
J'ai dit du mal de Marisol Touraine, c'est fait. On met un petit dernier. De qui je peux dire du mal, vite fait? Un petit mot sur Macron, quand même. Un petit mot sur Macron.
J'étais un peu étonné, voilà, comme quoi il est dans le consensus actuellement, Macron.
Il est quand même bon communicant. Alors, ça énerve un peu ma chérie, parce que à chaque fois qu'on a des apéros, j'ai eu quelques apéros ce week-end, et à chaque fois, les gens, ils ressortent, il est malin.
C'est une évidence.
Et vous savez, pour le coup de la poignée de main, en fait, comment Donald Trump avait pris pour coutume de broyer la main de son interlocuteur. Et puis, genre, c'est moi le chien qui pisse le plus haut, vous savez. Et Macron, au courant, comment dirais-je, de l'affaire, lui a chopé la pince, et façon étrille de la Manche, que je connais bien, vous connaissez aussi Tom.
Oui.
Et on voit à plusieurs reprises, c'est visible, Trump qui essaye, parce que quand vous savez, le jeu à la con, là, si c'est pas vous qui serrez le premier, vous l'avez dans le cul. Et donc, du coup, on voit Trump qui essaye de tirer sa main, qui t'a essayé de le reprendre, et l'autre, il sourit, Macron, non, j'ai pas lâché ta main. C'est très drôle. Est-ce que maintenant, le fait que Macron sache broyer la main de Trump va lui assurer un quinquennat glorieux?
C'est pas le François qui l'aurait fait.
C'est aller vite en besogne.
Je crois que le François Hollande, il aurait pris 3 jours d'arrêt de maladie après.
Hollande, est-ce qu'il avait la main molle? Est-ce que vous avez serré la main de François Hollande?
Non, mais j'ai,
je sais pas. La main molle.
Je sais pas pourquoi, mais j'imagine la main molle et moite. c'est ce qui est plus terrible,
En tout cas, il a la baraka. Il paraît que le ménage des commerces, non pas le ménage des commerces, c'est le moral. C'est marrant, ce lapsus. Le moral des ménages remontait. En clair, on consomme plus. Donc, il semblerait qu'effectivement, allez savoir.
Allez, une petite pause musicale, parce que...
Ce qui nous permettra de dire bonjour à nos invités.
Oui,
qui sont arrivés. Qu'on n'a rien à voir avec ceux que vous avez laissé rentrer dans la boutique. vous êtes un cinglé, ça. Ouais. Vous le savez, ça, que vous êtes fou.
On va leur expliquer, parce que je pense pas qu'ils aient tout compris. Allez, à tout de suite après le petit morceau qui arrive. I'm at this grinding radio. Said a signal was low. She wasn't getting my sound. She kept the volume down. Turn up the bass, bass. And then she kissed me in my face, face, face. I told her I had a girl that meant the world to me. She just looked me up and down. Was her name on me? Started pulling off her dress. Started licking on my chest, chest, chest. I tried to move away. She found me the next.
suffer tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon time. A lot of people running and hiding tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it off. No one will guide you along in time.
Vous allez être pété de rire. Écoutez ça, Roger. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Accrochez-vous, Roger. Mais délivre-nous du mal. Amen.
Et c'est là où on vient de me la raconter hier.
Allez-y.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni.
Rubrique religion. Amen.
Alors, je ne sais pas si nos invités vont apprécier ce générique. En tout cas, c'est ce qu'on devait être plus approchant sous la main. Sachant que notre technicien qui est chez nous depuis que 28 ans n'a jamais été foutu d'en faire d'autres depuis. Donc, du coup, c'est des vieux trucs. Mais ça peut servir. D'autant qu'en plus, Virginie et, donc Virginie Simard et Céline Cabioche-Lay, vont pouvoir nous en dire un peu plus, à savoir sur le bouddhisme, puisqu'avec Jean-Loup, on avait repéré un article dans Ouest France concernant le centre culturel bouddhique de Rennes. Et c'était à l'occasion justement de portes ouvertes. Je crois que vous avez fait des portes ouvertes récemment et vous invitiez les gens à venir dans votre centre culturel pour découvrir les différents aspects de la culture bouddhique. C'est en tout cas ce qui m'était dans West France. Je crois que vous me regardez avec des grands yeux.
Est-ce qu'on dit bouddhique ou on se posait la question bouddhiste?
Non, le centre s'appelle le centre culturel bouddhique.
Bouddhique, ah, d'accord.
Commencez pas avec vos conneries.
C'était un point de grammaire.
Non, mais juste...
Donc c'était pas une porte ouverte.
Si, si, en fait, il y a des événements qui sont ouverts à tous.
D'accord, voilà. Voilà. Donc il y a eu un article dans West France, fort bien fait d'ailleurs, pouf pouf, j'ai eu les contacts, et on s'est dit avec Jean-Loup, bah tiens, pourquoi effectivement ne pas aborder ce sujet, alors qu'on est dans un monde où effectivement, nous, où les religions monothéistes que l'on connaît bien, le christianisme, comment le judaïsme et l'islam s'entrecharpent, s'entre-déchirent joyeusement dans la région, et c'est de plus en plus abominable, et tiens, on se dit, tiens, pourquoi pas parler aussi d'une autre, alors religion, philosophie, vous en direz plus tout à l'heure.
Alors après, ça, il s'écharpe, ça dépend où. Sur Rennes, moi je fais partie aussi d'amitié entre les religions, et on s'entend bien justement de toutes ces religions.
Alors peut-être, justement, vous nous direz les rapports qu'entretiennent les bouddhistes, ou ouais, les bouddhistes là du coup, les bouddhistes avec les autres religions. Quoique, on pourrait peut-être parler, un sujet qui fâche, la Birmanie, où il y a des choses un peu
on
abominables. Bref, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu aussi du centre culturel, à l'origine. Vous êtes toutes les deux présidente et présidente, parce que vous savez quand même que Céline, on reste président à vie en France. Hein. La France est un pays qui aime les présidents. On est tous de présidents de quelque chose. J'ai dû être président de truc aussi, moi. Et bref, par contre, vous êtes encore, vous êtes ex-président du centre culturel, et vous, Virginie, vous êtes l'actuelle présidente. Et on vous remercie ce soir d'avoir bien voulu passer un peu de temps avec nous pour nous éclairer sur un sujet, somme toute, quand même bien vaste et qui remonte à très longtemps.
Bon, je sais pas, j'ai une petite question de base. On est dans un pays catholique où c'est pas forcément évident de connaître le bouddhisme. Comment vous êtes tombé dedans? Comment vous avez découvert? On peut parler de religion, c'est le terme.
Alors je pense qu'on l'a connu déjà de manière complètement différente toutes les deux, puisque moi je suis d'origine vietnamienne. Et donc ma mère était bouddhiste et j'ai découvert le bouddhisme par ma mère, par une pratique religieuse de ma mère. Alors que Virginie, je pense que c'est le contraire.
Moi en fait c'est à l'adolescence où justement c'est l'âge où on se pose plein de questions. Et je suis allé à la bibliothèque du lycée prendre tous les bouquins qui existaient sur les religions, diverses et variées, même les sectes, pour voir les réponses. Mmh. Et du coup c'est le bouddhisme qui m'a appelé et j'y suis depuis 25-30 ans.
Mais ça a dû être plus compliqué. Vous êtes originaire de
Normandie.
De Normandie. Oula, ça va être encore plus compliqué. Autant vous avez c'est culturel ou c'est familial. Mais justement, quand vous avez eu cette, je sais pas si on peut appeler ça une révélation, vous avez fait.
C'est d'abord par les livres, et ensuite, en France, il y a des centres bouddhistes de toutes les traditions partout. Alors là, sur Caen, c'était plus des zen, mais il y a aussi des tibétains, il y a aussi, il y a tous les véhicules, on appelle ça les différentes écoles, les trois véhicules, sont représentés partout en France.
D'accord, elle. Et cette idée de centre, elle est née comment? Il y avait un manque ou
Alors le centre, on a commencé à en parler en 2005. Je me rappelle bien, c'est un membre de la communauté cambodgienne, le docteur Sor, qui a fait la demande, en fait, à l'époque, c'était Edmond Hervé. Il a fait un courrier à Edmond Hervé pour dire que nous, les bouddhistes, nous n'avions pas de centre culturel, pas de lieu, en fait, où se réunir, contrairement, enfin, c'était au moment de la construction du deuxième centre islamique, le centre culturel à Vicennes. Mmh. Et donc, on a fait cette demande et monsieur le maire Edmond Hervé a reçu notre demande favorablement. Et un collectif s'est créé. Alors au départ, le collectif, c'était simplement avec des personnes d'origine asiatique, du sud-est asiatique. Il y avait les trois grandes communautés présentes à Rennes, les Cambodgiens, les Laotiens et les Vietnamiens. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait d'autres bouddhistes. Et donc on les a contactés, par exemple les Zen Soto, qui est une association de bouddhisme. Le Zen Soto, c'est un bouddhisme japonais, mais ce ne sont que des Français. Pareil pour le tibétain, le bouddhisme tibétain. On a fait appel donc, et on a travaillé ensemble en collectif, et on a vu qu'il y avait un réel besoin qui allait au-delà des simples communautés du sud-est asiatique, de cette diaspora qui était installée depuis les années après 75.
C'est justement dans le sens de cet article-là, de dire que votre centre répondait à une demande donc de la part de gens originaires d'Asie pour avoir... Alors c'est là où vous allez pouvoir, parce que nous dans notre histoire, hein, c'est, vous savez, c'est très compliqué. Vous avez dû engober un petit peu Virginie et vous aussi sans doute Céline. Je ne sais pas, vous avez fait vos études en France avec oui. Vous avez les guerres de religion, c'est tout pointu, tout le monde s'est trip. C'est très très compliqué. Alors vous allez pouvoir nous dire si c'est aussi compliqué chez les bouddhistes, mais en tout cas, il semble pas, parce que du coup, il y avait un réel désir. La nationalité n'est pas ne s'est pas posée comme un obstacle, par exemple, parce qu'on dit ça parfois de au niveau de l'islam que on va avoir des mosquées plus algériennes, plus marocaines, plus tunisiennes, etc. Est-ce que là, par contre, il y a un œcuménisme, il n'y a pas de problème entre c'est le même bouddhisme de comment pour tous ces
alors
pays.
Alors non, le bouddhisme, faut mettre plein de S. Parce qu'il y a déjà les trois grands véhicules qui sont, en fait, c'est des périodes dans l'histoire au moment de l'enseignement du Bouddha. C'est l'enseignement Theravada, le bouddhisme des anciens qui s'est développé et qui existe toujours dans le sud-est asiatique. Donc, les gens qui sont arrivés en France du sud-est asiatique pratiquent ce bouddhisme-là. Après, au niveau de, environ au début de l'ère chrétienne, il y a un deuxième bouddhisme qui s'est développé plus dans le nord de l'Asie et au Japon, qui s'appelle le Mahayana, le grand véhicule. Et là, c'est des pratiquants qui vont arriver chez nous, par exemple, du Vietnam ou du Japon. Et il y a eu un troisième courant qui s'appelle le Vajrayana, qui s'est développé autour du 7e siècle, plus dans l'Himalaya, qui sont très représentés par les Tibétains. Et c'est ces trois courants-là, déjà philosophiques et de pratique, qui sont différents. Et en plus de ça, on a ces différences culturelles avec les habitudes de chaque pays, avec les gens qui arrivent, avec leur culture. Il y a tout ça qui s'entremêle.
Mais alors c'est rigolo, parce que n'empêche que malgré tout ça, comment il y avait une réelle demande, il n'y a pas des gens qui ont posé... Je sais pas, parce que du coup, est-ce que je suis pas en train de confondre centre culturel et centre cultuel ? Là, c'est ça que je suis en train de faire. En fait, c'est pas un centre, c'est pas un lieu où on pratique une religion, c'est un centre, ou est-ce que c'est un centre où on est là pour discuter ou animer la culture?
En fait, il y a les deux. Qu'on peut pas diviser le cultuel et le culturel. Enfin, c'est difficile, d'accord, puisqu'on se réfère tous au Bouddha. Donc, il y a plein d'événements culturels. D'ailleurs, si on va sur notre site, on voit qu'on fait des concerts, des conférences, on y mange, enfin, on fait plein de choses. Et aussi, il y a des moments où les associations vont pratiquer leur bouddhisme particulier, ou d'autres moments où tout le monde se retrouve, parce qu'on a des fêtes communes aussi, même si c'était pas toujours l'habitude en Asie, puisque chacun pratiquait son bouddhisme.
Puis il y avait des distances à lui, qui faisaient que...
Et personne ne se mélangeait, en fait. Ce qui s'est passé en France, c'est qu'à l'heure actuelle, on a accès à tous les bouddhismes d'un coup. Et c'est ça qui fait aussi la richesse du centre. D'ailleurs, le CCBR, quand on accueille des maîtres, dernièrement on avait accueilli un maître tibétain, ils ont l'habitude d'être reçus dans le monde entier, dans différents centres, et ils nous posent toujours la question, là je suis chez qui ? En attendant, je suis chez les tibétains, chez les zen, chez... Voilà. Et là, on lui a dit, vous êtes chez tous les bouddhistes. Il dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas un lieu pour tous les bouddhistes. Si, à Rennes, et c'est le seul lieu en France, voire peut-être dans le monde, parce que chacun, normalement, fait son centre avec ses activités. Et à Rennes, il y a eu ce centre culturel qui a été mis en place pour tout le monde.
C'est-à-dire que si je suis un membre d'un des trois grands mouvements, on est affilié, je suppose qu'il y a une association, etc. chez vous, ça doit fonctionner, enfin on se pointe pas comme ça, mais bref, on a une fête qu'on a envie de fêter, on peut avoir les locaux pour pratiquer la fête qui n'est propre que à mon courant.
Complètement. Oui, en fait, on est une association de loi de 1901. Avec plusieurs collèges, dont deux collèges sont réservés à des associations. Soit des associations culturelles, ou soit des associations culturelles, mais à vocation bouddhique. Et tous les courants sont représentés dans cette association, et donc effectivement, oui, on peut organiser des événements ponctuels.
En fait, le CCBR, il y a un peu deux niveaux. Il y a le CCBR est un regroupement d'associations, en fait. Donc il y a toutes les associations qui fonctionnent ensemble, et il y a les adhérents des associations ou des adhérents qui viennent de l'extérieur, qui viennent adhérer au CCBR. Ça, il y a aussi plein de couches différentes, on va dire.
Et je pense qu'au fil du temps aussi, le CCBR a su acquérir vraiment une identité propre. Et donc, les gens sont adhérents et se représentent comme étant du centre culturel bouddhique. Et plus d'une seule, d'une association, je représente telle ou telle association au sein du centre. Non, maintenant, on a des gens qui viennent vraiment pour le centre et qui sont avant tout membres du centre.
On s'écoute un petit disque et après on poursuit notre conversation, parce que j'ai plein de choses à vous demander sur le bouddhisme. C'est vrai qu'on pense qu'on
embrasse... Et on se sent petit, parce que vous êtes en train de nous parler d'une forme d'œcuménisme. Vous êtes en train de réussir des choses que des gens ont mis des milliers d'années à essayer de se réunir sans se taper dessus.
On regarde chez les chrétiens, ou même chez les musulmans, selon les tendances. Mon islam est meilleur que le tien, ma chrétienté est meilleure que la tienne, et ça, même si plusieurs tendances, ça n'apparaît pas forcément.
Non,
dans
enfin, le, ça part aussi de l'enseignement du Bouddha. Moi, j'ai signé aussi, on va dire, dans le, pour suivre l'enseignement du Bouddha. C'est qu'il a dit, ne suivez pas ce que je vous dis parce que je vous le dis, mais suivez-le parce que vous l'avez expérimenté. Ce qui fait que tout le monde est libre d'accueillir les enseignements et les pratiques, de dire ça, ça me convient pas. Et on va pas aller pinailler là-dessus. On suit les enseignements, on va dire, c'est le, à la fois la philosophie et le côté religieux aussi, les deux, mais avec cette ouverture. De pas aller dire, bah justement, mon bouddhisme, il est plus bon.
On suit les enseignements qu'on peut suivre.
Oui, il y a plein de niveaux.
Bah, on va peut-être, en continuant notre conversation, savoir s'il y a un bouddhisme qui peut nous convenir. Parce qu'apparemment, il y a des règles de vie assez, assez strictes. Je sais pas si ça va rentrer dedans, là, là.
Déjà, tu oublies tout de suite le bouddhisme, genre.
Allez, on s'écoute un petit disque.
Everything was black when in the darkness I saw you. He's got a palace and my cave is made of stone, but I am jealous that I live out on my own. Don't need no dollar signs, I don't need a dime. I got my ways, girl, I'm gonna make you mine. What's on your mind when you look into my eyes? I'll do no wrong, so I don't apologize. I'll make you happy, I swear I will stay true. Cause everything was black when in the darkness I saw you. You're leaving him to be with me every day. I hear my heart saying you're the one for me. When we're together, girl, I know you will agree. You long for me to long for you, I have been told. A love like mine, girl, you know it don't grow old. Oh, it ain't hard, babe, one and one is two. Cause everything was black when in the darkness I saw you.
En compagnie de Céline et vous avez
j'ai tout noté. J'ai tout noté.
Et vous
mais
me piquez
il vous
le
voit papier.
Oh, oui, mais il a tout. Bon, il a tout. Et quand j'ai un crayon, il me le pique. Quand j'ai un bout de papier,
ça, c'est
voilà.
Bon crayon. Tiens.
Voilà, bah, qui nous parle un petit peu.
Il n'en emmène jamais du papier, lui, monsieur.
Ou qui vont essayer de nous faire découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que le bouddhisme avec un S, vous l'avez précisé. À l'origine, ça part de. Alors, du fameux Siddhartha, ça part de. Comment c'est né, en fait?
Donc, ça part du Bouddha il y a 2500 ans. Qui, alors, dans la tradition, alors, on dit que c'était un prince, sûrement plus le fils d'un roi clé, qui a pris conscience un jour que dans la vie, il y avait des choses beaucoup plus difficiles que ce qu'on lui faisait croire au palais, qu'il y avait de la souffrance, qu'on mourait, qu'il y avait la maladie, qu'on vieillissait, Et lui, sachant aussi que les ascètes existaient, qu'il y avait des religieux qui cherchaient des réponses pour se libérer de cette souffrance, il s'est dit, bah, moi, je vais chercher la réponse. Et il est parti dans la forêt avec des ascètes, en se disant, bah, c'est comme ça que ça s'enseigne, je vais devenir un ascète, et par les mortifications, je vais trouver la solution. Au bout de quelques années, il s'est rendu compte que ça le menait nulle part, en fait. Mmh. Pareil, dans la tradition, on dit que c'est d'avoir entendu un musicien qui disait à son élève, alors l'image c'est que le Bouddha était sur la rive, le professeur était sur une barque et en passant, il a dit à son élève, si la corde est trop tendue, ça casse, si elle n'est pas assez tendue, ça ne sonne pas. Et là il s'est dit, ok, je tire trop sur la corde, mon corps va pas tenir. Il est revenu, ce qu'ils appellent maintenant dans le bouddhisme la voie du milieu, ni trop, ni trop peu. Donc c'est une discipline qui maintient l'équilibre entre les extrêmes.
Ça, on aime bien, nous, ça. Ni trop, ni trop, ni trop peu. Ça va. Jusque là. Écoutez, jusque là, on est d'accord. C'était quoi les religions de l'époque?
C'est dans un milieu hindouiste, en fait.
Ouais.
C'est... En Inde. Il est né, en fait, maintenant, c'est au Népal. C'est dans le sud du Népal, mais c'était un petit royaume en Inde.
Alors, moi, comment dirais-je? Il va y avoir les...
Ah, justement, j'aime bien le côté historique. Donc, il s'aperçoit que la corde est trop tendue.
Et donc, il retourne sur des pratiques, on va dire, plus équilibrées. Et par la méditation, donc, c'est-à-dire par la présence à son esprit, à sa conscience, il découvre que c'est notre esprit qui pose beaucoup de problèmes. Alors dans la tradition tibétaine, souvent l'image que l'on donne de l'esprit, c'est que c'est un singe fou dans un arbre. Et il passe son temps à changer de branche.
C'était un psychanalyste avant l'heure, en fait.
Il est appelé le grand médecin.
D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit, en fait?
C'est toute cette capacité à connaître. C'est la conscience. Et cette conscience, si on la laisse faire... Bah, on voit bien, ça part dans tous les sens.
Donc, c'est le libre arbitre, c'est tout ça.
À l'heure actuelle, on voit bien, entre eux, avoir un smartphone dans la main, un téléphone, enfin, la télé devant l'autre, un ordi, enfin, voilà, on est parti dans tous les sens. Et déjà, à l'époque, c'était d'autres préoccupations, mais l'esprit partait dans tous les sens. Et de ramener l'esprit à ici et maintenant, on se rend compte que le passé n'existe plus, le présent est juste ce petit moment, le temps de claquer des doigts, il a déjà disparu, et le futur n'existe pas. Et en ramenant notre vie à ici et maintenant, en fait, on découvre un moment justement où on peut atteindre une sérénité et un calme qu'on n'a pas quand on passe sa vie avec hier et demain.
C'est-à-dire savoir vivre le moment présent.
Complètement.
Oh, ça me ferait du bien, ça. Ça me ferait du bien. Et donc, il s'appelle toujours...
On peut encore parler de bien.
Et comment Siddhartha devient Bouddha, en fait? C'est une révélation, une réflexion.
C'est le fait d'avoir compris le chemin de la libération, donc c'est-à-dire d'avoir compris la réalité des phénomènes. Donc là, c'est vrai qu'on part dans des notions un peu plus philosophiques. Le bouddhisme considère que ces souffrances existent, mais que d'une façon illusoire, en fait. Et que la réalité, la vraie réalité, on va dire, des phénomènes, c'est ce qu'explique un peu la physique quantique actuelle, c'est que la table là, sur laquelle sont posés les verres, c'est une illusion, c'est du vide.
Ça me rappelle un peu la théorie de la caverne de Platon.
C'est une illusion.
Ce qu'on voit n'est qu'illusion, en fait, n'est pas la réalité.
Mais à la fois, c'est, alors, dans le bouddhisme, on va utiliser le mot de vacuité, donc la vacuité d'un côté, mais en même temps, il y a la claire lumière. Parce qu'on peut pas nier les phénomènes, on peut pas nier la table, on peut pas nier que si je tape dessus, ça va me faire mal, même si je me dis que c'est vide.
C'est nouveau, ça, de faire référence à la physique quantique quand on parle du bouddhisme, parce que la physique quantique, en ce moment, tout le monde en parle.
Le truc, c'est que la science, de plus en plus, commence à trouver des preuves, des photos de ce que les pratiquants disent depuis des siècles et des millénaires. Par exemple, au niveau des neurosciences, ils sont en train d'expliquer que justement la plasticité du cerveau, l'entraînement du cerveau, c'est ce qu'on appelle la pratique, hein, la discipline chez les pratiquants de la méditation, et que quand quelqu'un dit « moi je suis né colérique, de toute façon je changerai pas », en fait, ok, on est colérique, mais on fait le choix de rester colérique. Et qu'en fait, là, si on entraîne le cerveau, c'est comme un muscle. Si on décide de ne plus connecter les mêmes synapses, d'utiliser les mêmes routes, parce que les neurones sont feignants, hein, ils prennent la route, elle existe, pouf.
Le plus rapide.
Voilà. Si par contre on commence à ne plus prendre cette ancienne route et se dire cette fois-ci je fais le choix d'en prendre une autre, bah petit à petit l'ancienne route se détruit et les neurones qui sont toujours aussi feignants vont prendre la nouvelle route. Mmh. Et ça en ce moment les neurosciences donnent, on va dire, des photos et des preuves de ce que les pratiquants expliquaient depuis des siècles.
Et donc alors le fameux Siddhartha. Donc on parle, donc là il n'y a pas de révélation comme nous les monothéistes,
c'est une pratique.
Enfin, je dis nous la culture, c'est pas un dieu, un ange, un prophète.
Avec, c'est on aime bien les trompettes.
Il n'y a pas de trompette.
Nous on aime bien aussi, vous savez, les espèces d'arbres de feu.
Non plus.
Pas non plus. Est-ce qu'il y a une espèce de plaque avec des trucs, les dix commandements?
Par contre, on peut trouver des choses peut-être encore plus plus forte. Parce que justement, dans ces trois véhicules, il y a toute une partie ésotérique, on va dire, où là, le Bouddha est classé dans certains de ces moments de sa vie, aurait fait des choses merveilleuses et magnifiques, comme marcher dans l'air, où les êtres éveillés peuvent marcher dans l'air, traverser les murs. Donc il se passe aussi des choses extraordinaires.
Et petite question, je sais pas si les gens, c'est vraiment un personnage historique.
Oui, oui. Alors en ce moment, il y a quelques questionnements sur ces dates précises.
Oui, ça, mais bon, enfin quelque part, on s'en fout.
C'est 2500 plus ou moins, voilà.
Pareil, le Christ, on n'est pas sûr à 10 ans près.
Alors c'est vrai qu'on oublie que dans ces régions-là, on est à moins 2005, c'est ça. Ouais. Ce sont des pays de vieille culture.
Non, moins 500.
Où on avait déjà l'écriture, du coup. Alors est-ce qu'il y a, alors je sais, je connais la réponse, mais est-ce que le Bouddha, comment a transmis de manière écrite, formelle, son enseignement, ou comme pour les religions monothéistes, ce ne sont que des recensements. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure là, de l'histoire sur l'évangile. Là. Mm-hmm. Est-ce que effectivement les bouddhistes, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les musulmans d'ailleurs, n'ont affaire qu'à des recensements qui ont été faits par des fidèles qui l'ont connu ou alors qui lui ont succédé, qui ont interprété ses paroles?
C'est un enseignement oral qui a été posé un jour par écrit. Mais ce qu'il faut aussi bien voir dans le bouddhisme, c'est que c'est vraiment un enseignement de pratique. On n'a pas à croire, on n'a pas à, on va dire, à accepter un dogme. On va dire, la voie du bouddhisme, c'est d'expérimenter. Donc, ses disciples ont expérimenté et ils ont continué à enseigner ce qu'ils avaient reçu. Ils l'ont fait vivre à leurs disciples et ainsi de suite, jusqu'à maintenant.
Donc, Bouddha ne peut pas être considéré comme un dieu, mais comme un maître.
Voilà. Oui. Il a trouvé le chemin avant les autres.
Ah. Et chacun peut devenir un Bouddha.
Ce qu'on a tous, ce qu'on appelle la nature de Bouddha, on a tous cette graine en nous. Alors, c'est très agricole, en fait. On a cette graine, si on la cultive, si on lui met du soleil, de l'eau, de la terre, elle va pousser. Si on la laisse enterrer et s'en occupe pas, ça va pas pousser.
Alors, est-ce qu'il y a quand même l'équivalent d'un livre sacré, comme pour l'évangile, comme pour la Torah, comme pour
le Coran? Alors là, faut plusieurs S. Il y a des centaines de livres. Parce qu'en fait, il y a les enseignements du Bouddha, et après, il y a 2000 ans de commentaires des enseignements du Bouddha. D'accord. Dans chacune des traditions.
Dans chaque pays ou partout, c'est très répandu, la tradition bouddhiste.
Oui, parce que le bouddhisme, il a vraiment évolué d'une manière différente d'un pays à l'autre. Il vient d'arriver en France, ça fait peu de temps.
40-50
ans. Et il va évoluer aussi d'une autre manière en s'adaptant à la culture française, enfin européenne, et en amalgamant des concepts, je pense aussi, judéo-chrétiens à l'intérieur. Comme on le voit, par exemple, pour dans les pays du sud-est asiatique, on n'a pas le même bouddhisme au Japon, au Vietnam ou au Tibet, par exemple.
Mais qu'est-ce qui fait le ciment, justement, des bouddhistes, même si, donc, il y a quand même, il y a une base, après, les pratiques sont un peu différentes.
Bah, justement, l'enseignement du Bouddha. Tout le monde part de l'enseignement du Bouddha. Après, chacun va avoir sa compréhension sur, comme disait Céline, tout le côté culturel. Par exemple, au Vietnam, il y a le culte des ancêtres qui va pas exister dans un autre pays. Au Tibet, ils ont pris, comme l'animisme a existé avant que le bouddhisme arrive, il y a eu des choses animistes qui sont rentrées dedans. Mais il y a toujours ce cœur de l'enseignement, que justement il y a cette voie du milieu, il y a une discipline à suivre, que tout le monde accepte cette base, de tout le monde va pratiquer, va essayer de s'améliorer, de comprendre les illusions. Et après, ce qui va changer, c'est le point de vue philosophique, le but ultime. Alors on peut avoir des débats pendant des siècles chez nous, en plus on adore ça, sur la nature ultime de l'esprit, la nature ultime de l'éveil, mais au final on finit toujours assis sur un coussin ou sur une chaise face à soi-même. Et ton esprit, il est où dans tout ça? Et c'est le cœur de l'enseignement que chacun partage.
Alors justement, on s'écoute un petit dix, et puis après, moi j'aimerais bien justement qu'on revienne sur les...
Moi aussi.
Moi j'en ai noté 4.
Moi j'en ai noté une.
Ah,
important.
Bah, vous avez moins noté
de... Mais oui, mais elle est beaucoup plus importante.
Alors, parce on va mettre un morceau de musique, je crois que c'est Céline, c'est vous qui avez choisi la musique.
Oui, c'est une chanson vietnamienne. Enfin, j'ai amené donc deux titres vietnamiens. Voilà, puisque le centre culturel bouddhique, c'est aussi le bouddhisme, mais c'est aussi la culture, et notamment du sud-est asiatique. Et donc, pour faire découvrir à vos auditeurs.
D'accord, bon, on va s'écouter ça tout de suite, c'est parti.
Oh,
Voilà, toujours en pleine spiritualité et pas justement, j'ai une question à vous poser. C'est quoi le but du bouddhisme en fait, l'étape ultime? Vous avez, enfin, il y a eu une part d'hindouisme qui a été intégrée dedans.
Le bouddhisme s'est construit un peu contre justement cette approche théiste. Justement, le Bouddha a pas voulu suivre cette idée. Par l'expérimentation, hein, il s'est dit mais ça sert à rien d'aller vénérer un dieu extérieur. Le chemin, c'est par l'intérieur. La libération viendra de l'intérieur de chacun, et c'est le chemin qu'il a cherché. Alors on dit qu'il y a 14 questions auxquelles il a jamais vraiment répondu. Par exemple, est-ce que Dieu existe? À la limite, l'histoire qui est racontée, l'image qu'on donne souvent, c'est on vient de vous tirer dessus, vous avez reçu une flèche empoisonnée. Au lieu de poser la question, est-ce que le gars qui m'a tiré dessus, il est marié? Est-ce que son arc, il est en bois? Est-ce qu'il est en, je sais pas quelle matière? On commence par enlever la flèche, on se soigne, et après on peut discuter. Et c'est ce que le Bouddha propose.
D'accord. Et il n'y a pas d'histoire de réincarnation?
Dans le bouddhisme croit en la réincarnation.
Voilà, donc c'est pour ça que je faisais un peu référence à l'hindouisme.
Ça consiste en quoi? Alors,
moi, vu de l'extérieur, je dis c'est génial, ça, on peut changer de vie. Et en fait, non, c'est pas si génial.
Chez nous,
que
non,
ça.
C'est voilà. Pas bien vu, en fait. Parce qu'en fait, le but, on va dire, du bouddhisme, c'est de se libérer justement de ces cycles de réincarnation, puisqu'on considère, enfin, on constate assez facilement que de croire en toutes ces illusions qui nous entourent, ça nous fait souffrir. Donc le but, c'est de sortir de ces illusions. Et le chemin, justement, qui va mener vers cette illumination, vers cet éveil, va permettre de s'en libérer. Et le Bouddha a donné vraiment ce chemin-là à travers une pratique personnelle. Chacun après de la prendre.
Moi, je me posais la question, est-ce que c'est... Alors, je vais vous poser deux questions, en fait. Une question, ça va, plus ou moins honnête, et une question un peu tordue. J'ai cru comprendre, quand même, pour la question honnête, est-ce que ça veut dire que, du coup, il faut aussi bien se comporter pour éviter, comment dirais-je, la réincarnation? Il faut à tout prix éviter la réincarnation pour atteindre le nirvana, si j'ai bien compris.
Alors, la réincarnation, souvent, on a une mauvaise idée. On a l'impression qu'il y a une espèce d'âme ou d'esprit permanent qui sauterait de vie en vie... On vivrait des choses.
Donc il ne se serait pas comporté de manière plus ou moins correcte.
Mais la chose, c'est comme une des notions les plus fondamentales du bouddhisme, c'est que la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Tout change tout le temps. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire « je suis allé au bord de la Vilaine ». Ok, très bien. Demain, j'y retourne, on dira toujours « je suis allé au bord de la Vilaine ». Sauf qu'il n'y a pas un seul atome qui était là la veille. Donc c'est plus la même Vilaine, mais on va continuer à l'appeler la Vilaine, c'est quand même plus pratique. Mm-hmm. Et c'est la même chose avec la réincarnation, en fait. C'est comme une énergie... Je sais pas, on peut donner aussi l'image de deux boules de billard. Une boule de billard en frappe une autre, la première va s'arrêter, la deuxième va démarrer. C'est une énergie qui se continue, mais c'est pas la même boule en fait. Et les réincarnations, on peut voir ça un peu comme ça. C'est une énergie, un continuum, on appelle ça un continuum, qui va aller de vie en vie. C'est pas quelque chose de permanent, mais il y a cette énergie qui se
transmet. Mais est-ce que c'est pas toujours la même énergie?
L'énergie, elle peut pas être figée. Parce qu'après, voilà, on peut discuter là-dessus. C'est le même élan, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui est figé et permanent, qui se promène de vie en vie.
Et je sais pas.
Attendez, je finis avec
votre question
un peu plus tordue. Est-ce que ça, comment le bouddhisme n'a pas justement par cette histoire de réincarnation un petit peu que, alors vous allez m'arrêter tout de suite si je me trompe, cautionner un peu le système de caste? Est-ce que je me gourre? Parce que
les castes n'existent pas dans le bouddhisme.
Ça n'existe pas. Et chez l'hindouisme, est-ce que l'hindouisme c'est un peu un mélange de certains préceptes bouddhistes?
Du tout. L'hindouisme était là largement avant le bouddhisme.
Largement avant. Mmh. Donc, aucun rapport entre le bouddhisme et les castes du coup?
Non.
Alors. Okay. Pourquoi reproche-t-on ça, justement, comment certaines personnalités, même de gauche, bien connues aujourd'hui encore, à propos du Dalai Lama, etc.
Donc là, c'est spécifique à une branche du bouddhisme, justement, c'est le bouddhisme Vajrayana de l'Himalaya, au Tibet, au Népal, au Bhoutan. Mmh. Et ce qui est vrai, c'est que comme toute institution humaine, dès qu'on met un groupe d'humains ensemble, il y a toujours un qui veut être chef à la place
de
l'autre.
Dites pas ça, Jean-Loup, il a une idée très sombre de l'âme humaine. Et donc,
en fait, ce qui a été utilisé, des personnes ont essayé de maintenir leur pouvoir en disant, c'est mon fils qui est le nouveau chef, parce que ça reste dans le clan. Ça a été un peu perverti. Mais le système en tant que tel de reconnaissance des maîtres de vie en vie fonctionne bien aussi d'un autre côté, mais comme toute, on va dire, institution humaine, il y a des ratés.
D'accord.
Non, justement, dans les préjugés que j'ai par rapport au bouddhisme, pour atteindre ce fameux nirvana qu'on pourrait traduire comme un paradis, Je ne sais pas si on peut comparer par rapport aux chrétiens.
C'est plutôt une conscience. C'est comme une médaille avec deux faces. C'est juste le point de vue. Si on est d'un côté ou de l'autre, on est dans la souffrance ou pas dans la souffrance. C'est un peu comme un enfant qui vient de se construire un palais magnifique en sable. Pour lui, il est réel, son palais. Si quelqu'un lui casse, c'est la fin du monde. Mais s'il réalise que bah, c'était que du sable, il n'y a aucune souffrance. Et on est un peu là-dedans.
Ouais, parce que justement, c'est dans le fameux préjugé que j'ai, c'est quand même, pour atteindre ce fameux nirvana, ça a l'air d'être un mode de vie relativement austère.
Alors, il y a deux trucs, genre, justement, dans toutes les...
Ascétique. C'est ça ascétique, qui vous gêne, c'est le mot ascétique.
Alors que justement, on pourrait croire...
Ascétique, il n'y a pas de bière.
On pourrait croire...
ça dépend chez qui.
Voilà le...
Les Japonais, j'ai noté. Ouais.
Selon les cultures, les différentes traditions, par exemple dans le véhicule des anciens, le Theravada, il y a vraiment toute une conduite du corps, de la parole, de l'esprit à garder, à maintenir. Alors tous les autres courants le suivent aussi, mais dans d'autres pays, comme par exemple au Japon, on pouvait voir des maîtres. Alors la limite, on va dire, à chaque fois, c'est de trouver un maître éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, donc qui a réalisé la nature des phénomènes, s'il se saoule, il comprend toujours la nature des phénomènes. Si un disciple veut juste faire comme le maître, se saouler, mais qu'il a rien compris, il se juste saoule. Donc c'est juste là où on peut trouver des différences, mais pour certains, l'alcool peut, on va dire, peut être consommé, mais c'est pas non plus une notion bouddhiste. C'est culturel, en fait.
Oui, c'est vrai qu'on, enfin, vu de l'extérieur, on pourrait voir le bouddhisme comme une certaine religion qui, où on pourrait croquer la vie quelque part, et en fait, non, enfin,
c'est toujours,
on a l'impression que c'est une religion qui est très cool, et pas si cool que ça, vu de l'extérieur, hein, c'est vrai que je suis pas un spécialiste, il y a quand même des contraintes, il y a quand même des interdits.
C'est pas juste, tout est beau, et on fait ce qu'on veut, et tout se passe bien. Il y a vraiment cette discipline intérieure au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Dès qu'on s'engage dans cette voie, ben on est tous responsables de ce qu'on fait.
Sauf que, si j'ai bien retenu un des premiers principes, on fait un peu ce qu'on peut faire.
Chacun, personne n'est tenu en résultat.
Parce qu'on expérimente. Et c'est quand on fait notre prise de refuge, en fait, à ce moment-là, enfin après ça dépend, il y a des préceptes qui sont différents d'un bouddhisme à l'autre. Chez les Vietnamiens, il y a 5 préceptes. Et donc, effectivement, on s'engage à certaines choses. Et c'est là où on dit qu'on prend refuge dans la voie du Bouddha. Donc, en fait, c'est une espèce de... chez les catholiques, ce serait équivalent au baptême. Sauf que ça ne se fait pas chez les enfants parce qu'ils n'ont pas la conscience pour s'engager. Ça se fait à l'âge adulte. Certains le font même à 50, enfin, n'importe quel âge.
Et certains ne le font pas.
Certains sont, se disent bouddhistes, mais sans cette prise de refuge, parce que justement ils trouvent peut-être trop difficile. Alors parmi ces préceptes, par exemple, il y a effectivement par exemple de ne pas boire d'alcool ou de ne pas se droguer, mais c'est pas parce qu'on juge que c'est mal ou bien ou voilà de prendre de l'alcool, c'est parce qu'on estime que si on en prend trop d'alcool ou de drogue, on va perdre notre conscience et on ne sera pas assez lucide, en fait. Je pense que tu es d'accord avec ça, c'est plus dans ce sens-là.
C'est pas un interdit formel.
Alors, il n'y a jamais d'interdit formel. Il y a des choses qui sont préconisées. Enfin, dans les vœux, il y a quand même, enfin, dans le prise de refuge, ne pas tuer. On évite, en sachant que quand on vit, le fait même de respirer, de marcher, on tue des petites bestioles. Pour ça que, dans certaines traditions, on est aussi végétarien. Ne pas voler. Mais c'est pareil, ne pas voler, c'est aussi ne pas prendre un stylo qui est sur la table sans avoir demandé la permission, parce que peut-être que la personne à qui il appartient, après, va dire, on m'a volé mon stylo, ça va créer de la zizanie et des troubles. Ne pas prendre d'intoxicant, comme tu disais. Alors, l'intoxicant, tout de suite, on pense alcool, drogue, mais si on est accro au chocolat et que c'est vraiment une addiction, bah, faut aussi arrêter le chocolat.
Vous auriez pas dû dire ça. vous venez de perdre quelqu'un.
Il y a aussi la fidélité qui est le 5e précepte. Et là aussi, c'est pas un jugement de valeur sur la sexualité des gens. C'est simplement, si on trompe son conjoint, on risque de le faire souffrir. Et donc, c'est pour éviter cette souffrance-là.
Ah. Oui, ça c'est. Alors c'est assez marrant parce que du coup, je trouve ça sans être plus permissif, ça renvoie aussi davantage au libre arbitre des personnes, contrairement un peu à la religion chrétienne où quelque part on trompe sa femme et on va chez le curé, on se vaccine, non, on se confesse,
tout est pardonné.
Hein. On se fait confesser, vous me ferez 3 AV, 4 pater, et vous pouvez retourner.
Il y a toujours la règle et le cas qu'on va vivre. Par exemple, dans les vies du Bouddha, on dit que dans une de ses vies, il a tué, parce qu'il était dans un bateau où il y avait 500 personnes, il a vu qu'il y avait un meurtrier qui allait tuer les gens. Et il s'est dit, bah, je prends ce, je veux dire, ce mauvais karma sur moi, je vais tuer ce gars et protéger les autres. Pareil dans le bouddhisme, par exemple dans le bouddhisme tibétain, mais je pense dans beaucoup d'autres aussi, on peut pas être, l'avortement n'est pas recommandé, mais avec certaines situations, entre avoir un avortement et avoir une vie horrible pour la mère, les enfants et tout ça, vaut mieux un avortement. Donc il y a toujours la règle et la réalité.
L'exception ou l'exception.
Est-ce que c'est ça qui, justement, par rapport à nous, où on voit, bah, par exemple, il suffit de voir la réaction autour du mariage homosexuel, comment j'ai cru que Jean-Louis et moi n'aurions jamais pu convoler en juste noces. Et donc, du coup, comment chez nous, on a quand même des réactions très fermes qui sont un peu, effectivement, pénibles. Je préfère, là, le faillot auprès de vous. Mais c'est vrai que chez nous, si vous faites pas comme
chez
tout
nous,
le monde.
Dans la culture chrétienne,
chez
on va dire.
Les chrétiens, on va dire. Eh ben, effectivement, vous êtes stigmatisé. C'est, puis c'est très hypocrite quelque part, parce qu'on peut déjà racheter ses péchés en allant à la confesse, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi, alors moi je pense que c'est aussi le fait du clergé, hein, le clergé qui a aussi détourné à son profit d'une certaine manière certains enseignements qui finalement peuvent s'rapprocher. Moi, quand j'ai bossé un peu sur le sujet, enfin je sais pas, les enseignements de Jésus me paraissent pas vraiment antinomiques par rapport à ceux de Bouddha, lorsqu'il dit qu'on ne doit pas voler les autres, on ne doit pas.
Tout ça, il dit commandement, ok.
Voilà, on ne doit pas faire du mal, il relève les prostituées, etc., etc. Et est-ce qu'il y a un clergé, comment chez les bouddhistes, et comment ça se passe? J'imagine que ça doit évoluer suivant les pays.
Complètement.
Et moi, je parlais un petit peu. J'ai entendu dire, par exemple, vous disiez énormément de mal des Tibétains tout à l'heure.
En tant que Tibétain, j'ai pas de problème.
J'aime bien mettre les gens à l'aise. Bref.
C'est quoi votre question en fait?
La question, c'est est-ce qu'il y a des clergés qui ont un petit peu détourné? On a parlé un petit peu de ce qui se passait système des castes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus dans la norme? Moi, il y a quelque chose qui m'avait choqué, c'était justement ce bonze. Il était bouddhiste, ceux qui se brûlaient au Vietnam contre guerre de.
Oui, oui.
Mon Dieu, je crois que c'est l'image la plus bouleversante que j'ai pu voir de ma vie, ce bonhomme qui brûle, qui bouge, etc., pour signifier qu'il y en a plein le cul, quoi, de ce que vous faites. Quoi.
Alors, c'est vrai que le bouddhisme vietnamien a toujours été un bouddhisme engagé. Déjà, les événements au Vietnam ont fait que c'est vrai que les gens avaient un engagement politique. Et c'est le cas toujours actuellement. En fait, il y a ce qu'on appelle l'Église bouddhiste unifiée du Vietnam. Avec donc l'organisation d'un clergé dont vous parlez, et ce sont là les membres de ce clergé sont des personnes qui sont issues de la diaspora, donc qui sont installées en France, enfin dans toute l'Europe et notamment aux États-Unis, et qui ont coordonnés tous ensemble et qui ont donc créé cette Église bouddhiste unifiée du Vietnam qui n'est pas reconnue au Vietnam, puisque dans les années 80 le Vietnam leur a demandé en fait de en quelque sorte de se soumettre à ce qu'ils ont refusé, et il y a eu une scission et il y a une autre, je ne sais plus le nom, mais en français justement, mais il y a une autre église, enfin une analogie au Vietnam. Et donc pendant quelque temps ce n'est plus le cas, mais justement les moines de cette diaspora ne pouvaient pas se rendre au Vietnam parce que ils avaient peur de l'influence politique qu'ils pouvaient avoir sur la population. Et c'est vrai que le moine qui s'est immolé, ça a été un moment très marquant dans nos esprits.
Le suicide n'est pas un interdit chez les bouddhistes alors?
Si, de prendre la vie, si, de tuer,
on,
si.
On peut pas, ouais, comme dans les religions monothéistes.
Donc ce qui fait que les moines qui se sont immolés en plus sont déjà ont souffert, et en plus ils ont pris sur eux d'accumuler des actes de
ce qu'on peut appeler des péchés
de mauvaise vertu, on va dire, voilà. Mais ils ont pris ça pour eux, justement pour le bien de tous les êtres. Ils se sont dit peut-être que en faisant ça, ben les gens vont réagir. Mais c'est vrai que le fait d'être bouddhiste ne garantit pas la vertu. L'humain étant ce qu'il est, c'est pas parce qu'on s'habille en bordeaux, en orange ou en vert ou n'importe quelle couleur que tout devient magique et tout va bien. Dans tous les pays bouddhistes aussi, il y a des choses qui se passent qui sont pas, on va dire, légales, qui sont pas forcément bien pour les femmes, qui sont pas bien forcément pour les communautés.
Justement, on disait du mal, comment, et après on mettrait un petit X, mais moi j'étais choqué parce que j'ai vu en Birmanie des musulmans qui s'échappent à la nage pour éviter les violences commises par les les bouddhistes, ça, je suis un peu, excusez-moi, tombé sur le cul, parce que je me dis, tiens,
tu auras poids à la non-violence.
Religion philosophique, en tout cas, que j'estimais non-violente, et là, ils leur font de la misère, et la, on a du clergé, bouddhiste, birman, qui,
alors, jusqu'ici, on était très contents et assez fiers de dire, chez nous, justement, il n'y a pas de guerre de religion, enfin, voilà, les bouddhistes n'ont jamais été envahir le voisin, pour dire que mon bouddhisme est mieux que le tien. Et depuis peu, on a donc ce moine birman qui est très fier de se faire appeler le Ben Laden birman. Il est très fier de ça. Et d'où ces violences. Mais là, c'est plus du bouddhisme, c'est du nationalisme exacerbé sous couvert de religion, comme ça se passe dans plein d'endroits. Mais là, c'est plus du bouddhisme du tout.
Ah, j'ai vu pas mal d'articles assez terrifiants sur les gens qui s'échappent à la nage. Quand on s'échappe à la nage, c'est qu'on a vraiment...
C'est qu'on a envie de se baigner parce qu'il fait chaud.
On n'a vraiment plus rien à perdre.
Et toujours dans le côté anecdotique, on avait parlé, je sais plus, il y a 2-3 ans, la fameuse réincarnation de Bouddha, le Little Bouddha. C'était une arnaque, en fait.
Il a redisparu comme il était arrivé. Moi, j'ai pas eu d'autres nouvelles. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiquants comme ça qui arrivent, qui disparaissent.
Voilà, où apparemment il y avait un bon business. Non, je sais pas, c'est moi qui suppète un peu. Parce que dès qu'ils ont voulu faire des choses un peu plus scientifiques, parce qu'ils ne buvaient pas, ils ne clignaient pas des yeux, ni quoi que ce soit, il a disparu à ce moment-là.
Il y a un film là-dessus, sur les gens qui se nourrissent directement d'énergie, ça s'appelle le film Lumière. Alors c'est pas du tout bouddhiste, hein, d'ailleurs, c'est une pratique aussi de yogi, qui se nourrissent justement d'énergie directement.
D'accord.
Donc peut-être qu'ils se nourrissaient directement d'énergie.
Allez, on va s'écouter un deuxième extrait de votre programmation qui, je sais pas,
j'ose pas dire le titre. Hein.
Oui, c'est compliqué. Donc vous pouvez nous le présenter.
Oui, en fait, c'est une jeune artiste vietnamienne qui est, elle avait un maître aussi, qui est un artiste vietnamien qui est du genre de Bob Dylan, et elle fait de la pop, et elle a juste 29 ans et elle commence à voyager aussi en Europe, et on l'a vu il y a 4-5 ans en France.
Et bon, on s'écoutait ça tout de suite.
Et c'est de la musique très nostalgique, en fait, très mélancolique.
Et comment elle s'appelle, du coup, parce que je ne sais pas
bien. Les Quatre Tronglés.
Bah écoute, c'est évident. Bah,
finalement, ça...
C'est pas si compliqué que ça.
Thank you. sầu chờ bàn tay đến lay. Có tiếng ca là hương ngát trầm gọi người mê thức dậy. Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng ý ý là không thể hát về.
Vous devriez faire une émission rien que pour vous, là, là.
Non, je présente le blog des Grignoux. Je présente le blog des Grignoux pendant
que lui, au moins, il s'occupe des invités.
Non, bah non, bien sûr que non, c'est une intoxication. Vous n'avez pas écouté les.
Si j'ai écouté l'émission, mais peut-être que le tabac est une petite clope, comme moi, je sais pour moi. Moi, je m'en fiche, je sais que depuis qu'ils interdisent le chocolat, moi, c'est baisé.
Et justement, une petite question, parce que leur tourne, comment on devient bouddhiste, en fait? Il y a une initiation, il y a.
Bah, il y a cette prise de refuge formelle. Alors, on peut pratiquer des années, on peut s'intéresser au bouddhisme, on peut lire sans prendre refuge, et puis choisir un jour, prendre refuge, c'est s'engager à dire je vais suivre les enseignements du Bouddha, je vais suivre son enseignement au sein de sa communauté. C'est vraiment toujours en conscience de dire je vais faire les choses en conscience.
Et donc je fais devant
alors,
personne
selon chaque courant, un lama, un vénérable, ça va dépendre de la tradition.
C'est quoi, vous disiez tout à l'heure, je vous présentais, parce que on n'aura pas le temps d'en parler, mais s'il y a des auditeurs qui veulent découvrir un petit peu ça, ils peuvent lire une BD, deux BD d'ailleurs, qui sont sorties sur Alexandra David-Nel, une Française, toute seule, qui est partie au Tibet, dont on en parlait tout à l'heure, là. Et il y a eu deux BD qui sont sorties, c'est complètement stupéfiant, ouais, cette petite bonne femme, là, qui va rechercher l'enseignement. Et vous parliez, vous dites, ah ouais, mais elle, c'est un lama, ça veut dire quoi, un lama?
Elle avait reçu, en fait, les enseignements bouddhistes tibétain traditionnel, et donc elle avait reçu cette reconnaissance et elle était elle-même enseignante.
D'accord.
Lama, ça veut dire enseignant.
Et est-ce qu'il y a une forme de sexisme chez les bouddhistes qu'on peut retrouver?
En fait, c'est pas chez les bouddhistes, mais c'est dans les cultures asiatiques.
D'accord.
C'est la culture, en fait, qui a fait que. Et d'ailleurs, le mouvement, justement, de rencontre entre l'Orient et l'Occident a beaucoup fait changer les lignes, parce que, par exemple, quand je parle pour la tradition que je connais le plus chez les Tibétains, il y avait encore des vieux Rinpoché, il y a encore quelques dizaines d'années, qui enseignaient qu'évidemment, la nature de Bouddha n'avait ni couleur, ni forme, ni rien. Par contre, il avait un sexe, hein. On pouvait atteindre l'éveil que si on était un gars. Et quand les femmes occidentales sont arrivées là-dedans, il y a un problème. Ce qui fait que ça a beaucoup changé. Et maintenant, il y a de plus en plus de nonneries où les femmes peuvent recevoir les mêmes enseignements que les hommes. Même si c'est vrai que chez les Tibétains, on continue à avoir beaucoup de réincarnations hommes et une ou deux femmes de temps en temps.
Donc c'est pas une religion figée, elle évolue, elle est même pragmatique quelque part, où elle s'adapte en fonction des mœurs et des coutumes. Là.
Complètement.
Et vous-même, vous allez peut-être même créer une forme d'œcuménisme bouddhique ou bouddhiste, parce que bon, leur tourne, mon pauvre Jean-Loup, et ça serait bien qu'on parle un petit peu donc du centre culturel du CCBR. Donc il est situé où?
Deux rue des Veillettes, donc dans la ZDI du Sud-Est.
On a nos amis kurdes qui sont juste à côté de chez vous, je crois bien. La République libre du Kurdistan, on a été fêté la nouvelle année, c'est la rue des Veillettes.
Le Nombreuse,
c'est possible.
Il y a le Secours populaire aussi, dans la rue.
Ouais, un quartier bien fréquenté, ma foi. Et c'est ouvert tout le temps. Alors il y a des.
Non, faut regarder sur le site. Voilà, faut regarder sur le site en fonction des activités. On n'a pas de personnes salariées.
Vous n'avez pas de permanence.
C'est que du bénévolat, donc c'est en fonction des activités. Mais ça commence maintenant au bout de 5 ans d'existence, ça commence à être bien fourni. On a des activités comme le yoga, le Vau Vietnam, le Qigong, le Tai Chi toute la semaine, même les week-ends. Et on a aussi des méditations, justement, de tous les courants. On a des conférences très régulièrement, des concerts. Et d'ailleurs, là, au mois de juin, on a un concert de musique indienne. Donc, qui viennent nous faire découvrir leur tradition aussi avec les instruments de musique indienne. Et à la fin du mois, on a les moines tibétains qui viennent pour 3 jours avec justement peut-être avec les images d'épinal qu'on peut avoir sur les tibétains, des danses traditionnelles. Ils vont aussi fabriquer un mandala. Donc c'est un mandala en sable avec des méditations spécifiques et des enseignements autour de ça. Et on va en avoir en mois de juillet un swami. On accueille un swami là aussi. des cousins, on va dire, qui viennent. Et puis tout au long de l'année, on a des conférences de personnes plus ou moins connues. Par exemple, en septembre, on a Philippe Cornu qui vient, qui était venu au Champ Libre, qui est très connu dans le milieu bouddhiste, on va dire, qui est un enseignant et un écrivain, un auteur. Et on essaie d'avoir une programmation justement à l'année de conférences, de concerts et de rencontres. Se rencontrer déjà entre nous, on fait déjà de l'interreligieux bouddhiste, et on fait de l'interreligieux avec les musulmans, les juifs et les chrétiens. Une fois l'an, on essaie de faire une conférence à quatre voix. En général, on essaie aussi de faire les danses de la paix après, où justement on danse tous ensemble.
En général ?
Oh non, justement.
Jamais.
Justement, on se rend compte que quand les personnes partent de leur pratique et de leur expérience personnelle, personne s'engueule. Dès qu'on part dans les dogmes, à dire « mon Dieu, il est plus beau que le tien », là on peut s'engueuler. Mais la dernière fois, le père Pérez avait fini la conférence en nous disant « donc moi je vais retourner dans ma Bible pour devenir un bon chrétien, toi tu prends ton Coran, tu deviens un bon musulman, les bouddhistes, vous prenez vos sutras, vous devenez des bons bouddhistes, et les juifs, vous prenez votre Torah et vous devenez des bons juifs ». Et en fait, tout notre boulot c'est ça. De prendre nos textes, notre pratique, et devenir des bons, ce qu'on veut, mais des bons humains.
Bah, c'est vrai que si chacun respectait les principes de ces différentes religions, il n'y aurait pas de guerre dans le monde, les riches donneraient aux pauvres, oui, mais le problème c'est, bah voilà, c'est ma fameuse théorie, c'est l'être humain.
Il y a l'air et la musique.
Il y a l'ego de l'être humain.
Ouais, et le chat et le chien, c'est dommage, les auditeurs peuvent pas le voir, mais on voit un gros chien qui est en train d'essayer de manger un petit chat et c'est marqué fast food. Vous trouvez ça drôle?
C'est la nourriture carnivore.
Ouais. Votre mère essaie, vous pensez
il y a des interdits au niveau de la... vaut mieux.
Alors, dans certains pays, le végétarisme est prôné. Dans d'autres, culturellement, c'est pas, les gens sont pas végétariens. Mais toujours dans cette idée de protéger la vie, évidemment, d'être végétarien, on protège la vie.
Ouais, d'accord. C'est un peu incompatible, du coup.
Ça dépend des pays.
Oui, parce que, mais une plante, ça peut souffrir.
On va dire qu'une plante qui se fait égorger, il y a peut-être moins de terminaisons nerveuses que...
Parce qu'on voit pas le sang, c'est un peu comme le poisson. C'est moins impressionnant.
Il y a peut-être moins de cerveau aussi.
Vous n'avez pas vu des souvent de poisson, alors.
Oh, j'ai vu vous qui avez la langue bien pendue, en général. Qu'est-ce que vous faites?
Vous savez, son problème, c'est qu'il manque de souffle. Oui, est-ce que vous travaillez le souffle chez vous? Vous faire travailler un petit stage de souffle?
Ça peut.
Non, mais non, vous manquez de respect.
Vous allez moins faire le mariole. Je leur manquais pas de respect, j'étais en train de leur montrer le blog.
Bah oui, lequel,
elles vont figurer, pas plus tard que la semaine prochaine, il y a un petit délai, hein. Vous voyez, il a quand même pas mal de bras gauche. Il est gentil, hein. Il est gentil quand même. Il nous a trouvé un jingle religion.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Voilà.
On va vous inviter à venir méditer, alors.
Yes, avec grand plaisir.
Donc, ça veut dire méditer, c'est-à-dire rester calme, sans bouger.
En fait, être méditer, c'est simplement être présent ici et maintenant. C'est laisser l'esprit tel qu'il est, sans se perdre. Alors, c'est un endroit assez glissant, parce que, ok, je suis là. Ah, tiens, j'ai plus de beurre dans le frigo. Ok, je suis là. Ah, c'était sympa, le film hier. Ok, je suis là. Merde, ma voiture, je l'ai garée où? Ok, je suis là. Et en fait, la méditation, c'est ces allers-retours. C'est être présent, et plus on va le faire, en fait, plus ça va se poser. L'image qu'on donne, c'est que notre esprit, c'est un peu comme un seau d'eau boueuse, et on est là avec notre bâton à secouer en permanence en se disant, c'est pas clair. Et tout notre boulot, en fait, on enlève le bâton, et ben, l'eau boueuse, le sable, la terre, ça va se poser dans le fond, et on va se dire, c'est clair, en fait. Et c'est tout ce qu'on a à faire, ce qui est assez difficile, c'est de rien faire. C'est difficile de rien faire. C'est pour ça qu'on s'entraîne.
Oui, est-ce qu'on peut arriver à ne pas penser...
Il y a quand même des côtés sympas, hormis la bière.
Non, mais après, il faut rester calme. Et vous avez dit, je serais plutôt un zen, moi, dans la...
Faut voir.
Oui.
Parce qu'en même temps, il faut tenir la posture.
Vous n'avez pas écouté la conversation tout à l'heure, là. Parce que les zen...
Certains consomment de l'alcool, voilà. Mais en même temps, il faut tenir la posture. Ils sont un peu plus stricts sur la posture.
Je pense qu'ils sont plus stricts que les autres courants.
Bon, ok, bon, je suis prévenu.
Et dans strict, il y a un S comme strict, ça veut dire.
Et voilà, bah, leur tourne, va falloir qu'on se quitte.
Ouais, Céline, comment, et Virginie d'avoir passé la soirée avec nous ce soir. On rappelle que donc, le CCBR, c'est rue des Veillettes, c'est à quel numéro, vous me dites?
Au 2.
De rue des Veillettes. Ah ouais, bah, pas loin du Secours Populaire.
Oui.
On peut pas se tromper parce qu'il y avait le funérarium à côté, quand même.
Oui.
Honnêtement, moi, guette.
On est juste en face. Mais en même temps, ça rappelle l'impermanence. De croire qu'on va être éternel.
C'est vrai, on doit mourir.
On va mourir.
C'est pas forcément prévu.
Petite question idiote, chez les bouddhistes, on est incinéré ou on est enterré, ou les deux?
Les deux, moi je dirais.
Ça dépend des cultures, des pays. Par exemple, au Tibet, on n'a pas de bois, où le sol est gelé et on ne peut pas enterrer. Les corps étaient découpés et offerts aux vautours.
Oui, 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 j'ai vu ça.
Tu sais ce que tu veux.
Donc ça dépend du pays.
C'est assez, non, mais je sais avoir vu ce genre de scène où c'est assez impressionnant. Ouais, là, le, bah voilà, bah la vie va à la vie, ou la mort va
vous
à la vie.
Vous n'êtes pas forcé de choisir les Tibétains. Pour vous, j'ai noté les Japonais.
Allez,
C'est Marianama ou Mariana.
Mariana.
Allez, Mariana.
Il est en
c'est très bien, j'ai fait une petite bouteille. Japon, c'est pour vous.
Coupez-le, là, là.
C'est pour vous.
Allez, on vous dit salut. À la semaine prochaine et c'est gentil d'être venu.
Au revoir.
Allez, on pourra laisser la place à l'émission suivante.
Thế thời thời thế.